Ce n'est pas un chemin linéaire qui est décrit dans le psaume 23, c'est une invitation à un retour. Ce chant est celui que dans notre vie nous avons parfois besoin d'entendre, comme Daniel Darc dans la vidéo musicale qui précède avait besoin de l'entendre au point de le mettre en musique. Ce chant, ce psaume, a une place considérable dans la vie de beaucoup de gens. Il soutient, il éclaire les chemins. Je vous propose de le parcourir, simplement, de l'égrener, d'en découvrir quelques nuances, pas à pas. L'Éternel est mon berger. Deux petites choses sur cette affirmation. Elle vient d'un temps bien avant notre époque, où les poètes n'hésitaient pas à prendre ce type d'image, en l'occurrence celle d'un éleveur nomade, un conducteur de troupeau, pour désigner Dieu. Et ce faisant, ils n'hésitaient pas non plus à se concevoir eux-mêmes comme par exemple une brebis ou un mouton, parce que dans ce temps-là, les animaux et la vie en général étaient respectés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était le cas alors, et il était donc valorisant d'apparaître comme une brebis, parce que même une brebis ou un mouton, malgré leur utilité, n'étaient pas encore devenus de la viande potentielle. Mais ils étaient des animaux, c'est-à-dire des êtres emplis du souffle, comme le sont tous les êtres vivants. Donc oui, je peux être un mouton, une brebis, parce qu'en ce temps-là, les bergers, les éleveurs étaient respectueux. Alors, je suppose qu'ils ne l'étaient pas tous, évidemment. Mais selon la Bible, il semblait l'être. Plus globalement, les humains n'avaient pas inventé cette séparation totale dans laquelle nous sommes encore entre les règnes animal et humain. Nous y sommes encore, mais peu à peu, heureusement, nous en sortons. La seconde chose que je voudrais relever, c'est l'étonnant de cette formule, et je m'étonne moi-même qu'elle ne soit pas plus souvent relevée. Il est mon berger. Donc moi, je ne parle pas au nom d'un troupeau. Je ne dis pas, par exemple, « Il est notre berger ». Je ne suis pas un chauffeur de salle. Je suis une brebis individuelle. Et ce berger, de mon point de vue, n'est pas que le berger de la masse qui m'entoure, mais il est le berger de moi, créature, qui a besoin de son guide. Alors on pourrait suggérer à tous les baptisés, certes, tu fais partie d'une communion de frères et de sœurs, une communion appelée universelle, mais c'est ta relation à ton Dieu qui va être encore plus importante que ça. C'est toi, et non pas tout le monde, qui peut-être un jour a été baptisé, ou aura besoin de l'être personnellement. Mes remarques vont devenir plus courtes, pour ne pas troubler votre propre perception de ce psaume. Des remarques qui seront juste disposées là pour en souligner quelques dimensions importantes. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ce n'est pas anodin. D'abord, ce psaume vient du Proche-Orient, région où parfois il faut quand même marcher pour rejoindre des verts pâturages. De même, ces brebis doivent pouvoir boire sans avoir peur, c'est-à-dire qu'il est préférable qu'elles ne soient pas en panique dans le tumulte d'un torrent. Et elles ont besoin évidemment d'être dirigées par un berger inventif, car ce sont des créatures d'habitude. Laissées à elles-mêmes, elles prennent toujours le même chemin. Elles creusent des ornières, elles broutent jusqu'à ce que le champ devienne un désert. Alors évidemment, pas la peine d'aller plus loin dans l'allusion ou l'évocation du comportement humain. Les eaux paisibles. Dans la mentalité hébraïque, l'eau est un élément ambigu qui est salvifique certes, mais qui est aussi menaçant, voire mortel. Et je vous invite à cliquer sur le lien internet. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'âme, en hébreu, c'est un organe qui est en gros la gorge, le lieu du passage du souffle et de la nourriture. Restaurer l'âme veut dire réparer l'organe de la communication avec Dieu. C'est un organe spirituel, évidemment, certes, mais parce qu'il conduit le souffle, mais qui est aussi très concret. Sans ce passage du souffle de Dieu, nous serions desséchés comme un violon dont l'âme serait brisée et qui ne vibrerait plus du tout. Et maintenant, c'est clair le chemin, et c'était le chemin de la justice. Ce chemin, je ne l'aurais pas découvert si je n'avais pas d'abord été reposé, si je n'avais pas d'abord été abreuvé, restauré. Je ne vais pas rentrer ici dans l'explication de ce mot dans la théologie biblique, puisque ça me ferait parler de toute la Bible. Je voudrais juste vous dire que c'est la notion la plus importante de la Bible, et de loin. À chacun de s'en rendre compte, à chacun de le découvrir dans sa lecture et dans sa méditation des Écritures. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Nous sommes prêts désormais à affronter la réalité avec cette mort en embuscade. Le psalmiste exprime maintenant une confiance totale et la fin de la peur. Cette peur qui peut devenir une angoisse et qui vient serrer votre ventre. Eh bien, c'est terminé. Même les adversaires ne font plus peur. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas la fin du psaume, mais c'est son point d'orgue, je dirais. L'huile qui coule sur ma tête signifie la dignité messianique, car c'est ainsi qu'on désigne le roi, le Messie, qui veut dire celui qui a reçu l'onction de cette huile parfumée. Et donc, selon ce psaume, je participe de cette messianité, comme les chrétiens ont voulu le dire en désignant celui de Nazareth comme le Messie. L'Éternel est mon berger impliquerait donc qu'on puisse penser, en tous les cas, sinon dire, je suis son Messie. Évidemment, il ne s'agit pas de dire je suis le Messie. Vous m'avez bien compris, je l'espère. Et voici la finale, donc, je dirais le postlude. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais là, je suis obligé de faire une remarque, on va dire, exégétique, d'étude biblique. Dans ce qu'on appelle la tradition massorétique, c'est-à-dire la Bible rédigée en hébreu, ce n'est en fait pas le verbe « habiter » au futur, c'est une histoire de syllabes qui fait la différence. Le verbe est « revenir » ou « retourner » et il est au présent. « Je reviens, je retourne dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors, ça change. Dans cette tradition textuelle que je viens de vous dire, le psaume 23 exprime une conversion. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs, puisque le livre des psaumes est, on va dire que c'est un seul livre, et qu'il a une cohérence interne. Chaque fragment, en fait, ne peut pas vraiment être lu séparément. Et donc ce psaume 23, évidemment, suit le psaume 22, que vous connaissez sûrement, qui évoque un abandon. Ce psaume qui dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et évidemment, vous vous rappelez que c'est la question de Jésus sur la croix, mais ce psaume 22 contient vers sa fin un retournement, où celui qui se croit abandonné va se rendre compte qu'il s'agirait à tout le moins d'un abandon réciproque ou d'un abandon par l'humain de son Dieu. C'est un peu quand on dit parfois « Dieu n'est pas là ». Peut-être qu'il s'agit que nous ne sommes pas là, nous-mêmes. Nous ne sommes pas là avec lui. Et du coup, on dit « il n'est pas là ». Mais c'est une question personnellement que je me pose. Alors David, dans le psaume 22, retourne à la maison de l'Éternel, il dit, chante, « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent, c'est-à-dire qui te révèrent, et se met à penser ce David universellement en disant « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. » Ce n'est donc pas un simple chemin linéaire qui est décrit dans le psaume 23, c'est un retour vers celui dont nous nous sommes éloignés. Ce retour est progressif, il y a du repos, il y a de la nourriture, Il y a une soif qui est étanchée, tout cela est au diapason de la justice, on vit, on sent la cessation de la peur malgré tout, malgré les embûches. Il y a cette louange débordante et puis il y a la certitude de la grâce. C'est vraiment le chemin de conversion. Voici donc, voilà donc mon message pour aujourd'hui, qui est quelque part en ligne, pour inviter à réfléchir à la conversion. Amen.